VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mercredi 1er juin 2016. À la une ce soir.
Trois policiers tués dans une attaque dans le nord du Burkina Faso.
Quatre morts, bilan d'une attaque terroriste à Gao, dans le nord du Mali.
Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut tenir une promesse de campagne. Il a demandé à un groupe d'experts de travailler sur un avant-projet de constitution.
L'abbé Malou Malou, ancien président de la CENI en RDC, est décédé aux États-Unis.
Monsieur l'abbé Malou Malou est décédé hier soir. Il était à Atlanta.
En magazine, la situation des droits humains en Gambie.
Nous allons rappeler à tous les chefs d'État qu'il y a des obligations et que la Gambie ne respecte pas ses lois.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
D'abord, on apprend qu'une voiture piégée a explosé aujourd'hui à l'hôtel Ambassadeur dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne. Des sources concordantes jointes par l'AFP font état de combats en cours à l'intérieur du bâtiment. L'attaque a fait un nombre indéterminé de victimes. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque.
Deux attaques dans le Sahel la nuit dernière. La base de la MINUSMA à Gao, au Mali, a été attaquée, coûtant la vie à un casque bleu chinois. Toujours dans la région, côté Burkina de la frontière, c'est un commissariat qui a été pris pour cible. Trois policiers sont morts. Les derniers détails avec Nicolas Pinault.
Oui, selon le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, l'attaque a eu lieu vers minuit à Intangom, à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali. Des assaillants non identifiés ont attaqué le commissariat, tuant trois policiers avant de prendre la fuite. Simon Compaoré s'est rendu sur place ce mercredi avec d'autres ministres. Il a annoncé des renforts dans la région et selon le ministre burkinabé, la piste djihadiste semble la plus sérieuse. La nuit dernière, au même moment, côté malien de la frontière à Gao, c'est la base de la mission de l'ONU qui a été attaquée. Un casque bleu chinois et trois civils travaillant pour les Nations Unies à Gao ont été tués dans cette double attaque, comme l'ont confirmé la MINUSMA et le ministère chinois des Affaires étrangères. Des mortiers ou des roquettes ont d'abord été tirés sur le camp situé au quartier Château d'Eau. Puis deux agents maliens privés de sécurité et un expert international ont été tués lors d'une autre attaque à l'arme légère qui a ciblé le local d'un prestataire de services de l'ONU situé dans un autre quartier de Gao.
Au Sénégal, Ibrahima Seye, un imam et professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Kolda, a été condamné à un an de prison ferme pour apologie du terrorisme. Lors d'un prêche en septembre 2015, il avait affirmé que tous les militaires envoyés au Mali sont des mécréants, en référence notamment au contingent sénégalais de la force de l'ONU dans ce pays.
En Algérie, 8 islamistes ont été tués dans la nuit de mardi à aujourd'hui lors d'une opération militaire près de Guelta Zerka, à quelques 40 km à l'est de Sétif, selon le ministère algérien de la Défense.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a donné 30 jours à un groupe de 10 experts pour faire des propositions pour un projet de nouvelle constitution. C'était l'une de ses promesses électorales. Éric Manirakiza.
Le président Ouattara a choisi un professeur de droit pour diriger son équipe d'experts. Boniface Obou-Raga, qui a promis une constitution plus consensuelle, avait joué un rôle dans la rédaction de la constitution actuelle. Le ministre de la Justice, Kambilé Sansa, et de la partie, sans oublier l'ancien patron de la fonction publique, Cissé Ibrahim Bakongo, un haut cadre du RDR, le parti de M. Ouattara, et fervent partisan des mandats illimités. La volonté affichée du président ivoirien de renforcer le processus de réconciliation en s'appuyant sur un texte modifié pour garantir l'égalité de tous, la cohésion nationale et la stabilité des institutions ivoiriennes. Cette réforme de la Constitution s'avère donc une mission périlleuse pour satisfaire toutes les parties. Le pays se remet difficilement de la crise post-électorale de 2010-2011 et M. Ouattara a été réélu en octobre dernier avec un faible taux de participation.
Fin de la transmission du virus Ebola en Guinée, a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, alors que le pays a passé 42 jours, deux fois la durée maximale d'incubation, sans nouveau cas. La Guinée rentre dans la phase de surveillance soutenue de 90 jours.
Au Nigeria, le groupe rebelle NDA, les Vengeurs du Delta du Niger, ce groupe a revendiqué aujourd'hui sur Twitter les attaques contre des installations du géant pétrolier américain Chevron. RNDA est le plus actif des groupes rebelles, ayant récemment émergé dans le delta du Niger. Ces dernières semaines, ils ont mené plusieurs attaques contre Shell, Chevron et la compagnie nationale nigériane NNPC.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 12 morts, une vingtaine de blessés et plus de 500 maisons emportées par les eaux. C'est le bilan des récentes pluies diluviennes sur 5 villages du territoire de Lubero, près du lac Édouard.
Et puis politique en RDC, décès hier soir aux États-Unis de l'abbé Malou Malou, ex-président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante congolaise. La réaction de l'ambassadeur de la RDC à Washington, François Balou Mouéné, au micro de Nicolas Pineau.
Monsieur l'abbé Malou Malou est décédé hier soir. Il était à Atlanta. Ce qui reste, c'est des préparatifs pour les rapatriements du corps au pays et pour cet enterrement. Là, on attend les instructions pour cela. C'est un homme qui a été très apprécié quand il a eu à organiser les premières élections démocratiques dans notre pays en 2006. Ça s'est passé assez très bien. Il était un homme honnête. Il a bien organisé les élections et c'est ainsi qu'après les élections chaotiques de 2011, il a été de nouveau fait recours à lui pour la suite de processus électoral.
François Balou Mouéné, ambassadeur de la RDC à Washington.
Le procès pour trahison de l'opposant historique ougandais Kizza Besigye s'est ouvert aujourd'hui à Kampala en l'absence de l'accusé. Le procureur affirmant qu'il n'avait pas pu être transféré au tribunal en raison d'une menace spécifique pour la sécurité. Le procès a dès lors été rapidement ajourné au 15 juin. L'opposant, qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans, avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il a été intronisé président.
Liberté de la presse au Burundi. Paris a exprimé aujourd'hui sa vive préoccupation suite aux menaces visant le journaliste burundais Esdras Ninkumana, accusé par les autorités de Bujumbura d'incitation à la violence dans sa couverture de la crise au Burundi. Esdras Ninkumana est le correspondant burundais de l'AFP et de RFI. Torturé en août 2015 par les forces de sécurité, il a fait l'objet hier, mardi, de menaces sur les réseaux sociaux après avoir été accusé par Bujumbura de, je les cite, « promouvoir le crime et la violence par sa couverture de la crise au Burundi ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, lutte contre l'État islamique, le groupe État islamique. Au 10e jour de leur offensive, les forces irakiennes soutenues par les États-Unis peinent à avancer dans la ville de Fallujah. Des centaines de djihadistes font de la résistance. Maïlis Hegel.
Lundi, les forces irakiennes, aidées de miliciens chiites et de membres de tribus, étaient parvenues à entrer à Fallujah. Les djihadistes contrôlent cette ville depuis janvier 2004. L'assaut est appuyé par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les commandants irakiens affirment avoir tué des dizaines de djihadistes depuis le début de l'offensive le 23 mai. Mais selon un colonel de la police, à chaque fois que les forces essaient d'avancer, ils font face à des systèmes de défense mis en place par Daesh. Quelques 50 000 civils sont toujours bloqués dans le centre de Fallujah, dont au moins 20 000 enfants qui, selon l'UNICEF, risquent leur vie et leur avenir. L'UNICEF a appelé à l'ouverture de passages sécurisés pour leur permettre de quitter la ville. L'ONU accuse le groupe État islamique de les utiliser comme boucliers humains.
Le groupe État islamique fait face à une double offensive, ses positions en Syrie subissant également des attaques de la coalition et des forces sur le terrain. Un nouveau front s'est ouvert contre Daesh dans le nord du pays où 18 frappes ont notamment détruit sur les dernières 24 heures un poste de commandement, des tours de communication, 6 ponts utilisés par les djihadistes et 8 positions de combat selon les autorités américaines. Après l'attaque lancée il y a une dizaine de jours près de Raqqa, le bastion de Daesh en Syrie, les forces arabo-kurdes soutenues par la coalition internationale tentent depuis hier de reprendre la ville de Manbij, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Un tribunal saoudien a condamné à mort 14 personnes originaires de l'est du royaume où se concentre la minorité chiite. Les condamnés à mort font partie d'un groupe de 24 personnes qui étaient jugées pour meurtre d'agents de sécurité et vol de passants à Awamiya, cette petite ville a connu plusieurs incidents depuis 2011 quand les chiites ont commencé à protester contre leur marginalisation par la majorité sunnite.
La grogne sociale qui secoue la France depuis la promulgation de la loi travail ne montre aucun signe d'accalmie. Pour la 8e fois depuis mars, les cheminots font la grève, cette fois pour une durée illimitée. Le trafic ferroviaire est très perturbé ce mercredi, avec seulement 3 à 4 trains régionaux sur 10 et 60% des TGV en circulation, selon la Société nationale des chemins de fer. D'autres secteurs liés au transport pourraient aussi connaître bientôt des arrêts de travail, y compris la compagnie aérienne Air France. La puissante centrale syndicale CGT a néanmoins assuré qu'il n'était pas question de bloquer l'Euro 2016 de football, dont le coup d'envoi est prévu le 10 juin. Le gouvernement de Manuel Valls a jusqu'ici refusé de céder aux pressions de la rue.
Les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Ces sanctions visent à restreindre encore l'accès de ce pays asiatique au système financier international. Raison évoquée par le Trésor américain, la menace posée par le régime communiste de Pyongyang. Une fois finalisées, ces mesures désigneraient le régime de Pyongyang comme un foyer de blanchiment d'argent et limiteraient drastiquement la possibilité pour les établissements financiers étrangers de mener des transactions avec la Corée du Nord.
Et puis pour la première fois, un enfant naît aux États-Unis avec des signes liés au virus Zika. Les autorités sanitaires du New Jersey signalent la naissance prématurée d'un enfant atteint de microcéphalie aiguë.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
En RDC, le conseil d'administration et la direction générale de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, sont dessaisis de leur pouvoir de gestion. Il leur est substitué le comité de gestion provisoire. C'est ce qu'indique un communiqué signé par le gouverneur de la Banque centrale de la République du Congo, BCC. Des difficultés de trésorerie seraient à l'origine de cette décision visant à redresser et préserver l'épargne des clients. Selon la BIAC, un retrait d'une ligne de refinancement mensuelle d'environ 40 milliards de francs congolais auprès de la BCC aurait poussé cette dernière à couper les robinets des liquidités sur décision du gouvernement. Relevant que le système bancaire congolais continue de souffrir des deux guerres qu'a connues le pays entre 1997 et 2003, et le pourcentage d'adultes disposant d'un compte reste parmi les plus faibles en Afrique. Nucléaire à présent, le projet sud-africain de réacteur nucléaire d'une capacité de production de 9600 MW est en attente depuis le début des années 2000. Son coût élevé d'environ 40 milliards d'euros soulève la controverse parmi les pays intéressés tels que la Chine, la Russie, la France, la Corée du Sud et les États-Unis. Pascal Colombani, envoyé spécial du président français François Hollande pour le partenariat nucléaire avec l'Afrique du Sud, estime que la France peut faire valoir plusieurs atouts face à ses concurrents dans la mise en production de la nouvelle centrale qui devrait se faire au milieu de la prochaine décennie. Le réseau électrique de l'économie la plus industrialisée d'Afrique, basé essentiellement sur le charbon, frôle en permanence la saturation.
Et maintenant, la page sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Série de matchs amicaux sur la planète football.
L'Espagne écrase la Corée du Sud 6 buts à 1. À suivre ce soir, Belgique-Finlande et Pologne-Pays-Bas.
Suite de la polémique sur la non-sélection de Karim Benzema en France.
Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Karim Benzema a justifié son absence en équipe de France pour l'Euro en lançant une polémique spectaculaire sur des questions qui fracturent la société française bien au-delà du football. C'est ce qu'a déclaré l'attaquant du Real Madrid dans une interview au journal Marca, et ce à 9 jours de l'Euro en France.
Suite du procès de Messi pour fraude fiscale.
Deux anciens avocats de l'attaquant star du Barça, Lionel Messi, ont assuré devant le tribunal de Barcelone que l'Argentin, jugé pour fraude fiscale, ne savait rien de la gestion de sa fortune, tout en détaillant les mécanismes qui visaient à réduire ses impôts. Lionel Messi, 28 ans, est poursuivi pour avoir évité le paiement de plus de 4 millions d'euros au fisc au titre des bénéfices tirés de ses droits à l'image. Entre 2007 et 2009, il n'a pas assisté au procès, mais sera entendu ce jeudi par le tribunal.
Et un peu de tennis à Roland-Garros.
Serena Williams n'a mis que 62 minutes pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros à Paris, aux dépens de l'Ukrainienne Elina Svitolina, qu'elle a battue en 2-7, 6-1, 6-1. L'Américaine numéro 1 mondiale affrontera la Kazakh Yulia Putintseva, 60e joueuse mondiale au prochain tour. Quant au Britannique Andy Murray, il s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en battant le Français Richard Gasquet en 4-7, 5-7, 7-6, 6-0, 6-2. Murray, deuxième joueur mondial, affrontera le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, dans sa quatrième demi-finale à Paris. Le Suisse Stan Wawrinka s'est qualifié en battant l'Espagnol Albert Ramos en 3-7, 6-2, 6-1, 7-6.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce mercredi, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, le Sénégal.
Les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront vendredi à Dakar pour un sommet ordinaire. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme tiennent une conférence de presse demain dans la capitale sénégalaise. Elles comptent faire un plaidoyer sur le bilan déplorable des droits humains en Gambie et appeler ce pays à respecter les libertés individuelles. Nani Talani, adjoint à Dakar, Steve Cockburn, représentant d'Amnesty International en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Il y avait les manifestations pacifiques qui étaient réprimées ces derniers deux mois. Il y avait des opposants qui étaient battus par les forces de l'ordre. Il y a toujours 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Et il y avait même une personne qui est morte en détention, qui s'appelait Solo Sandeng, qui était torturée par les forces de l'ordre, qui est morte suite à cette violence. Et donc c'est un contexte très très difficile pour les partis de l'opposition en Gambie. C'est aussi très difficile pour les journalistes qui sont aussi ciblés avec les arrestations et les fermetures des organes de presse. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le journalisme est le métier le plus dangereux en Gambie. Donc il y a beaucoup de journalistes qui fuient le pays parce qu'ils ont peur de pouvoir faire leur métier. Au-delà de ça, il y a une société civile qui a été réprimée, qui a peur de s'exprimer. Il y avait par exemple une syndicaliste, le leader d'une association des transporteurs, Sheriff Tiba, qui était arrêté il y a quelques mois et qui est mort aussi en détention en février. Il y avait un imam en octobre qui avait présenté une pétition au palais présidentiel. Il a présenté cette pétition pacifiquement. Il a été arrêté et il reste en détention depuis 8 mois sans avoir accès à sa famille ou son avocat. C'est le type de violation qui existe en Gambie en ce moment, qui crée un climat de peur dans lequel la population ne peut pas s'exprimer facilement. Nous demandons d'abord aux autorités gambiennes de libérer les détenus politiques et de changer les lois répressives, mais aussi de demander aux chefs d'État de la CEDEAO de prendre les mesures plus efficaces pour s'assurer que la Gambie respecte les obligations des droits humains qu'ils ont signées dans les traités de la CEDEAO.
Alors vous avez prévu inscrire à l'ordre du jour la situation des droits de l'homme en Gambie. Comment comptez-vous contraindre les chefs d'État de la CEDEAO à inscrire dans leur agenda la situation déplorable des droits de l'homme en Gambie?
Donc d'abord, nous allons exposer les graves violations qui ont été commises en Gambie et qui sont à l'encontre des obligations et des traités que chaque membre de la CEDEAO a pris en tant que membre de la CEDEAO. Donc nous allons exposer ces violations, nous allons rappeler à tous les chefs d'État qu'il y a des obligations et que la Gambie ne respecte pas ces lois. Il y a 3 jugements, par exemple, de la Cour de la CEDEAO contre la Gambie qui n'a jamais été respectée. Il y a des traités qui n'ont pas été respectés.
Steve Cockburn, représentant d'Amnesty en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en partenariat avec le gouvernement tchadien, forme les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires de la région de l'Ennedi-Est sur la protection internationale des réfugiés. La formation se déroule à Amdjaras, chef-lieu de la région de l'Ennedi-Est, à plus de 1000 km de la capitale. Y prennent part les nouvelles autorités administratives, civiles et militaires du pays. La correspondance d'André Kodmajingar.
Amdjaras, une région située dans l'est du Tchad, abrite plus de 27 000 réfugiés qui ont fui le conflit du Darfour. Ils vivent actuellement dans le camp de Ouré Kassouni, situé à 7 km de la frontière avec le Soudan depuis plus de 10 ans. L'OSCR veut s'assurer qu'avec la mutation des nouveaux responsables dans les structures étatiques de la région et surtout avec le déploiement des éléments de force mixte Tchad-Soudan, Ceux-ci assument-ils leurs responsabilités de protection des réfugiés conformément aux conventions internationales signées et ratifiées par le Tchad? Dossou Patrice Awansou est l'administrateur principal du ICR sous délégation de l'Est.
C'est une région qui est caractérisée par la présence des forces mixtes qui, au-delà de leur fonction première, elles interviennent également dans la chaîne de protection. Et pour ce faire, le ICR a jugé opportun en fait, d'organiser une séance de renforcement des capacités pour pouvoir échanger sur la responsabilité dans la protection et aussi mieux prévenir les violences, mieux outiller les différents acteurs de protection à intervenir dans l'efficacité, dans la prévisibilité et dans la redevabilité.
Prévenir les violences, oui, car les jeunes filles réfugiées font l'objet quotidien de viols, comme en témoignent quelques-unes.
Notre sécurité est assurée que dans le camp. Mais malheur à toi, si tu sors en dehors du camp à la recherche du bois, du chauffe, des garçons et quelquefois des hommes en tenue militaire sortiront de nulle part pour t'attaquer. Si tu es faible, ils finiront par te violer.
Information confirmée par le vice-président du camp de Wouré Kassouni, Adam Souleymane. Pour lui, cette formation, la première du genre, est une occasion pour les autorités administratives et militaires de la zone de connaître les droits et devoirs des réfugiés longtemps bafoués et permettra la réduction des violences sexuelles exercées sans état d'âme sur les réfugiés.
Une réfugiée qui serait violée au niveau du local du dépagère par un des agents pendant qu'elle était en détention préventive. Il y a eu assez de cas de viol. Lui-même, il a participé à la résolution de deux cas au niveau de la sous-préfecture avec l'intervention de la force mixte. Donc maintenant, lui, il fait un plaidoyer auprès des hautes autorités qu'on leur envoie de personnes qualifiées au niveau de l'administration pour les aider à mieux gérer.
Le sous-préfet de Cariari, colonel Hassan Targari, reconnaît qu'il y a violence basée sur le genre. Mais il déclare par ailleurs que le phénomène de viol dont on en parle au quartier n'est pas récurrent dans sa circonscription. André Kodumadjingar Ramdjaras pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Crime dissanabré, Human Rights Watch prépare un rapport accablant sur le rôle de la France. Que savait Paris? C'est la question que l'ONG, qui enquête depuis 1999 sur le système de répression dissanabré, et a préparé deux rapports en voie de finalisation. Un premier sur les relations entre le Tchad et les États-Unis et un second sur la France. Du fait de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, beaucoup s'interrogent sur le rôle de la France à l'époque. Nicolas Pinault a joint l'auteur du rapport, Henri Tullier, consultant pour Human Rights Watch.
La France était certainement informée des exactions qui étaient commises au Tchad à l'époque du régime de Hissène Habré. Peut-être pas dans l'ampleur et dans le détail, comme ces preuves sont sorties dans le procès de Hissène Habré, mais il est indéniable que la France avait des informations. Il suffit par exemple de voir les nombreux rapports d'Amnesty International qui étaient publiés à l'époque sur le Tchad, notamment sur le sud du Tchad, où de 83 à 85 s'est déroulée une violente répression contre les populations civiles, surnommée Septembre Noir. On peut aussi rappeler que l'ambassadeur de France à l'époque a survolé cette région par avion et a pu constater depuis son avion les nombreux villages qui avaient été brûlés.
Au-delà de l'information, de la connaissance de ces faits, est-ce que la France a aidé d'une manière ou d'une autre le régime Hissène Habré?
On peut même dire que la France a permis à Hissène Habré de se maintenir au pouvoir pendant de nombreuses années, puisque Habré, qui était en guerre avec la Libye, avait besoin d'un soutien extérieur pour faire la guerre aux Libyens, mais aussi aux soldats du Gount, ce gouvernement provisoire de Gukuni Wedei, appuyé par les Libyens et qui essayait de reprendre le pouvoir. Ainsi, la France a déployé une très grosse opération militaire en 83-84, qui s'appelle l'opération Manta, qui est le plus grand déploiement de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Puis, à partir de 87, l'opération Épervier, où là, on a déployé des avions d'observation et d'attaque. Mais pendant toute la durée du régime de Hissène Habré, il y avait aussi une grande coopération militaire, puisque la France a livré une quantité impressionnante d'armes, a mis à disposition de l'état-major de l'armée tchadienne des conseillers français, des officiers de l'armée française. Et puis, par exemple, la France avait aussi sur place des agents de la DGSE qui devaient, en théorie, faire remonter l'information vers Paris, notamment sur les exactions qui étaient commises. On a aussi la preuve que des formations étaient faites entre des agents de la DGSE et des agents de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, qui est la police politique du régime Habré et le principal organe responsable des crimes qui ont été commis.
Est-ce que la France a toujours montré une volonté de faire la lumière ou elle oppose forcément le secret défense ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de nos enquêtes, on a eu du mal à obtenir des entretiens, des rendez-vous avec des personnes qui jouaient un rôle important à cette période. On a eu, et je les remercie, des personnes qui ont évidemment accepté de nous parler. Nous avons aussi demandé à ce que les archives de l'Élysée portant sur cette époque soient déclassifiées, ce qui nous a été refusé afin de ne pas porter atteinte à la politique étrangère de la France.
Henri Tullier, consultant pour Human Rights Watch.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Hissène Habré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crimes contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme ? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et parlons maintenant de Discope Africa, grand-messe de l'audiovisuel à Abidjan. C'est la deuxième édition à laquelle a assisté Anastasie Tudiesch.
En 2015, le secteur audiovisuel a généré 550 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars sur le continent. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les retombées financières ne sont pas les seuls avantages de l'audiovisuel.
Je pense que le développement d'un pays, ce n'est pas seulement l'économie. Ce sont d'abord des valeurs, et les valeurs, c'est lié à la culture. Et la culture est essentielle pour notre développement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous... enclin à participer à ce genre donc, de manifestation.
Au programme, des ateliers consacrés au métier de la télévision, allocution sur la place du numérique dans l'audiovisuel africain, mais c'est l'espace d'exposition qui attire le plus. Les transactions entre acheteurs et vendeurs sont la raison d'être de l'événement et y permettent, selon la ministre de la Communication, Afousiata Bambalamine, de structurer un marché audiovisuel africain francophone qui en a bien besoin.
En plus du cadre institutionnel, c'est de leur permettre aussi de nouer des partenariats. Et c'est en cela que le Discope est intéressant. Parce que contrairement à certains pays, et je l'ai dit, comme le Nigeria ou comme le Kenya, qui eux, très rapidement, ont réussi à encadrer, à vraiment développer cette industrie-là, nous avons été bien sûr en avance parce que la première année qu'il y a eu la télé en Côte d'Ivoire, c'était quand même 1963, ce qui prouve qu'on aurait pu être en avance. Mais malheureusement, du fait de notre histoire personnelle, nous avons eu du retard. De sorte que ce retard-là, nous pouvons essayer de le rattraper aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, a certes du chemin à faire, mais le futur est déjà là. Tunji Bakang, président d'AfroStream, site internet dédié aux productions audiovisuelles africaines à la demande.
Alors, au Discope Africa se retrouvent les plus grands producteurs d'Afrique. Ceux qui racontent l'Afrique de demain sont là et l'idée c'est de les accompagner, leur proposer des contrats de production, des financements pour pouvoir justement divertir tout un continent et toute la diaspora.
Donc vous êtes là pour acheter du contenu ? Vous n'en avez pas assez ?
Nos abonnés nous demandent de plus en plus de contenu, donc l'idée c'est de pouvoir les satisfaire donc avec les contenus qui existent déjà et anticiper leurs besoins.
Un besoin de produits qui correspondent aux attentes des consommateurs africains. Dans ce contexte, l'annonce par la ministre de la Communication de la prochaine libéralisation de l'audiovisuel ivoirien semble être une évolution logique du secteur.
Merci Anastasie Tudiesch. Saloua Jafari a aussi contribué à ce reportage.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001 202 619 3140. Envoyez-nous vos SMS au 001 703 350 37 31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici. VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Moutou de RM Show. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Joselle Morissin en a assuré la mise en onde à la console. Souleyman Tarawale. Présentation, Claire Morin-Gibourg et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos plus d'un million de fans sur Facebook. On maintient la conversation et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.